Et pourtant, quand j'ai reçu votre première invitation en 2017, j'avais eu à cœur de vous apporter un message sur Ruth, si vous vous souvenez, le livre de Ruth. Et j'ai décidé de finalement, chaque fois que je vous visiterai, de faire une petite série sur ce livre. Et nous sommes dans le dernier message, le quatrième message sur ce livre de Ruth que je vous ai préparé. C'est un livre fascinant parce que nous y découvrons une lente résurrection de diverses personnes. Fascinant parce qu'il commence aussi par décrire courtement la vie normale d'un couple. Au départ, il semble qu'il n'y a rien de très spécial. Nous sommes en 1300 avant Jésus-Christ, à l'époque des juges, et la parole nous dit qu'à l'époque des juges, eh bien, Dieu parlait rarement parce que le peuple était dans la désobéissance. Il nous est dit dans ce livre des juges que chacun faisait un peu comme bon lui semblait, un peu comme ça lui semblait juste d'agir. Et voilà que Elimelec et Naomi décident de partir en pays de Moab parce qu'en Israël, il y avait une grande famine. Donc je résume quelque peu les trois premiers messages pour ceux qui n'étaient pas là. Puis bon, je crois qu'au niveau de la mémoire, j'admirerais, si vous vous souviendriez bien, depuis 2017 de ces divers messages. Mais voilà qu'il y a une grave famine en Israël et Elimelec et Naomi décident de se rendre au pays de Moab. Et plutôt que pouvoir bénéficier d'une vie espérée meilleure, évidemment que s'ils partent au pays de Moab, c'est pour vivre des temps meilleurs que moins bons, eh bien c'est tout le contraire qui arrive, puisque le texte sans nous dire expressément pourquoi, mais en Moab, Elimelec et Naomi ne sont pas du tout bénis, bien au contraire. Et on voit Naomi, cette femme courageuse qui perd son mari, puis qui perd un premier fils, puis un deuxième, le deuxième de ses fils, donc elle perd toute sa fratrie. Ne lui reste rien. La vie qu'elle avait en Israël s'est transformée en un vide béant. Et puis, sans doute que parce qu'elle n'est pas bénie, elle porte quelque part une certaine honte. Parce que vous savez, un peu comme ça, mais quand on a une grande poisse dans la vie, les gens cherchent à savoir et à comprendre pourquoi. C'est comme les disciples quand ils voient l'aveugle et puis qu'ils disent « Seigneur, qui a péché ?» On a parfois cette tendance. Et là, elle est sans doute dans une certaine honte. Elle est en tout cas habitée aussi par une immense incompréhension. Et peut-être aussi un peu de culpabilité. J'avais dit qu'elle n'a peut-être pas résisté à son mari Elimelec, que peut-être lui a eu l'idée de partir en Moab, mais que si elle avait pu choisir, peut-être qu'elle aurait dit non, on reste ici en Israël, nous ne le savons pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est restée extrêmement fidèle dans sa foi et extrêmement fidèle à Dieu. C'est admirable. Et l'une de ses deux belles-filles, Ruth, va la suivre. Elle va la suivre et elle lui fait un vœu. Elle lui fait ce vœu d'un attachement inconditionnel, d'un attachement qui est vraiment sans limite, aucune. Et en cela, cette descente aux enfers, on peut le dire comme ça, de Naomi semble avoir au moins été utile à quelque chose. Il en sort une conversion, une vraie conversion, à savoir celle de cette belle fille Ruth. Elle lui dit « Ne me repousse pas, là où tu iras, j'irai, là où tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai. Que l'Éternel me traite dans sa plus grande rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Naomi, dans son deuil, dans sa poisse, demeure époustouflante. Car dans sa profonde affliction, sans nier sa peine, elle est authentique, elle ne se plaint jamais, elle ne réclame et ne revendique rien. Et personnellement, ça m'impressionne beaucoup, parce qu'il me semble qu'il faut plus qu'un bon caractère, il faut plus qu'un sorte de naturel gentil, il faut vraiment être habité par l'esprit pour arriver à un stade d'acceptation des circonstances aussi douloureuses que ceux-là. Elle est une femme exceptionnelle, à plus d'un titre. Et nous avons vu aussi que grâce à Ruth, l'espérance reprend du terrain. C'est très lent, c'est imperceptible au départ, mais tout petit à petit, la vie redevient possible, malgré évidemment une immense fragilité, car leur vie, la vie de ces deux veuves, tenait à un fil ou à un cheveu. Dieu les soutient, les accompagne, mais nous, nous le savons, parce qu'on lit le texte. Mais elles, c'était pas si évident de le voir, et pourtant Dieu est là, les accompagne, il a un plan formidable, et petit à petit, il leur tisse un avenir qui dépassera de loin, de très loin, leur propre perception des choses. Voilà en résumé comme ça ces trois premiers chapitres. Et nous allons lire le quatrième. Ruth chapitre 4. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. On peut parler là des hasards de Dieu. Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi ici, toi, un tel. Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, « Faisons l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. » Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Il répondit, je la rachèterai. Boaz dit, le jour où tu achèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth, la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon propre compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Fais-en l'acquisition pour ton compte » et il retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilijon et à Malchon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malchon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel, pardon, et à Léa. » J'espère que ça n'a rien changé. Non, c'est bon. Très bien. Ah ben, je peux passer la photo suivante. Voilà. Semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérès que Tamar a donnée à Juda. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte, elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi, que 7 fils. » Naomi prit l'enfant le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père ou d'Isaïe, père de David. Et nous arrivons au premier point de ce message que j'ai intitulé « La détermination de Boaz ». Boaz semble être profondément touché, et sans doute par plusieurs éléments existentiels dans ce duo Naomi-Ruth. Car lui aussi, bien sûr, a appris que Naomi était revenue du pays de Moab avec l'une de ses belles-filles. Mais qu'est-ce qui a touché le cœur de Boaz? Nous pouvons nous poser la question. Je pense que ce qui l'a touché tout d'abord, parce que c'est un homme sensible, c'est l'extrême pauvreté qu'il constate chez Naomi et chez Ruth. Ça, c'est quelque chose qui était insoutenable à ses yeux. Deuxième élément qui l'a touché, parce qu'il n'était pas insensible justement, c'est ce lien paternel avec Elimelech et Naomi. Il s'est senti responsable, il n'a pas fermé les yeux. Et troisième chose qui l'a vraiment touché, eh bien, c'est la persévérance de Ruth, cette étrangère, sa réputation d'infinie fidélité, ça sans aucun doute, ça a beaucoup touché Boaz. Boaz, en homme honnête et sensible, est frappé par tout cela et Dieu va l'utiliser. Peut-être qu'il y a un quatrième élément, et ça on ne peut pas le savoir, mais c'est que Ruth était peut-être une femme charmante. Alors charmante, elle l'était de toute façon, puis c'était une femme extraordinaire. Peut-être que physiquement, elle était aussi charmante, nous ne le savons pas. En tout cas, je vous appelle à votre souvenir, c'est quand Ruth s'est trouvée à glaner par les hasards de Dieu dans le champ de Boaz, il avait dit que personne ne touche cette femme, que personne ne lui fasse du mal. Il avait senti qu'elle était en danger. À l'époque des juges régnait l'idolâtrie, la désobéissance, la violence. Et cet ordre, par conséquent, avait tout son sens. Il se méfiait même potentiellement de ses serviteurs, d'un acte qui pouvait ne pas être juste vis-à-vis de cette pauvre femme. Ruth, en allant glaner, sans le savoir, était une proie facile, donc en danger. Naomi avait donné divers conseils à Ruth pour s'approcher de Boaz et lui faire sa demande de rachat. Et Boaz avait été très touché par la manière, l'humilité, la pureté que Ruth avait utilisée pour faire cette demande. Il y avait déclaré, vous vous souvenez peut-être, « Je ferai pour toi tout ce que tu me demandes. Tout ce que tu me demandes, je le ferai. Car ici, tout le monde sait que tu es une femme de valeur. » C'est remarquable qu'en si peu de mois, parce que je pense ça tenait à quelques semaines, peut-être quelques mois, Ruth se soit déjà fait une telle réputation. C'est vraiment impressionnant. Cette femme avait quelque chose de particulier. Et Boaz avait, nous venons de le lire, soulevé un élément en disant « Mais quelqu'un a un droit sur toi avant moi. » Et là, j'imagine que Ruth, quand elle avait fait cette déclaration de nuit, avait dû avoir son cœur qui s'est un peu retourné. Elle a peut-être dû se dire, mais non, c'est pas possible, est-ce que je vais encore avoir la poisse et me retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre que je connais pas, qui n'est peut-être de loin pas bon comme Boaz? Mais Boaz est déterminé, il souhaite très vivement obtenir ce droit de rachat. Et il ne fait rien de malhonnête. Il est extraordinaire, Boaz, parce qu'il pourrait réfléchir à une magouille. Beaucoup auraient fait comme ça, se dire, mais je veux vraiment Ruth comme épouse. Comment je vais faire pour que celui qui a un droit avant moi, je puisse quelque part tourner l'histoire pour que je sois sûr de l'avoir? Il est pas malhonnête. Il va en ville, il demande des témoins. Dieu permet que cet homme se trouve là sur son chemin, c'est pas évident. Il voit là un signe, ça a dû l'encourager énormément. Et puis il appelle des personnes qui font office d'autorité, qui vont faire office de légalité. Il entame ses démarches et d'abord il parle des biens matériels. ce qui semble logique. Il est très correct, je trouve. Il parle du terrain. Et son interlocuteur lui dit, merci beaucoup de m'en avoir informé, ça m'intéresse, je prends, je rachète. Et Boz sans doute s'attendait à cela. Et il espère que la suite va décourager cet homme. Mais il ne le sait pas. Il doit faire confiance à Dieu. Et il lui dit, si tu prends les terres, sache alors que tu devras aussi prendre la veuve. Tu devras aussi prendre Ruth la Moabite, femme de Malchon, fils d'Elimelec. Tu devras aussi t'occuper, ça c'est pas dit, mais c'est une évidence, tu vas aussi devoir t'occuper d'une seconde veuve. Tu vas devoir t'occuper de Naomi aussi. Et là, la porte se referme. Cet homme s'était dit, les terres, le champ, ça m'intéresse, volontiers. Mais les pauvres... Deux veuves, ça m'intéresse moins, ça m'intéresse pas. Tout d'un coup, il est plus intéressé. Les bouches à nourrir, non merci, je te laisse mon droit de rachat. Et par un geste symbolique, eh bien cet homme dit à Boz, ça ne m'intéresse plus, si soit ça t'intéresse, va de l'avant, tout est à toi. Et Boz, oui, il est intéressé. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que lui, il n'est pas tant intéressé par le champ, par le terrain, mais il est intéressé par Ruth, et il est intéressé de venir au secours de Ruth. Nous voyons pas seulement un intérêt, parce qu'on se dit, ouais, c'est un mariage de rêve, c'est un mariage d'amour, c'est le coup de foudre. Il y a peut-être de cela, je ne le sais pas. Mais ce qu'il aimerait, c'est pouvoir être dans cette dimension d'honneur, de relever ces deux veuves qui ont passé par des temps épouvantables. C'est ce qui habite son cœur. Et puis, il aura au passage un champ, mais apparemment des terres, il en a suffisamment. Donc, au cœur d'une période où la foi n'était plus d'actualité, au cœur d'une période où l'honnêteté n'était plus tellement mise en pratique, au cœur de ce monde-là, ce qui est super encourageant, c'est qu'il existait en Israël un certain nombre de personnes qui étaient restées et vivait encore à un niveau très élevé quant aux valeurs de Dieu. Et ça, je trouve génial, et ça nous encourage énormément, nous chrétiens, parce que, comme l'a dit Jocelyn, nous ne vivons pas dans un monde facile, nous ne vivons pas dans un monde très beau. Et il suffit de regarder la télévision, mais il suffit de regarder aussi moins loin que ça, parce que la télévision nous informe du monde, mais autour de nous, on voit quand même beaucoup de choses. Et ça nous encourage parce que en Naomi, en Ruth et en Boz, il y a des conversions qui sont tellement profondes, une appartenance dans l'identité au Seigneur, donc ce sont des personnes de confiance. Et c'est pas si évident de trouver aujourd'hui des personnes vraiment de confiance. Ce sont des personnes de parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Des personnes de parole. T'as des personnes sensibles aux besoins des autres. On voit beau, c'est d'abord ce qu'il cherche à faire. Il dit, mais je peux pas laisser ces deux femmes comme ça. Elles vont juste mourir. Sensibles aux besoins des autres. C'était des personnes qui avaient un grand sens des responsabilités. C'était des personnes avisées, sages, remplies de discernement. C'était des personnes, pour terminer, d'une très grande qualité et d'une très grande foi. Et ça, comme chrétiens, dans le monde dans lequel nous vivons, soyons encouragés de cultiver vraiment ces valeurs-là. Notre monde ne va pas mieux, je l'ai dit, et quand je pense en cette période électorale, je suis un peu surpris du nombre, si important, il semble que ça dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, du nombre tellement important de personnes qui se présentent en vue des futures élections. Je me suis posé la question, combien d'entre eux sont prêts, non pas à avoir peut-être une bonne réputation sur le plan public, mais sont prêts à souffrir, à payer le prix d'avoir un peu d'autorité, le prix de l'honnêteté, le prix du service à autrui, le prix de l'humilité aussi, et je l'espère pour le plus grand nombre de candidats possibles, mais aussi le défi, le prix de la foi. Et ça, je l'espère. Nous n'avons pas besoin des hommes et des femmes publics connus pour répandre autour de nous, et nous le voyons dans ce livre, la présence et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, je trouve extraordinairement encourageant. Ce qui est super important, ce sont nos valeurs chrétiennes. C'est notre cœur, c'est notre volonté de suivre Dieu, quel que soit ce qu'on vit et quelles que soient les personnes qu'on croise. Rester droit. Deuxième point, et je serai plus rapide, la détermination de Ruth. Ruth, comme Boaz, est active, elle ne se croise pas les bras. Tout d'abord, consciente que c'est elle qui, dans ce duo, Naomi-Ruth, possède encore les forces de la jeunesse, possède encore la vie. Ruth va glaner, elle va travailler, elle va subvenir à leurs besoins. Cette femme n'est pas remplie de pensées qui sont négatives, elle n'est pas remplie d'amertume, elle aurait pu être amère. Non, ce qu'elle fait, elle le fait vraiment de bon cœur. Nous savons, de par ce fameux épisode avec l'onction d'huile de David dans 1 Samuel 16, que Dieu regarde au cœur. Et pour nous, aujourd'hui, ce matin, dans notre vie, demain, lundi, dans tout ce qu'on pensera, dans tout ce qu'on fera, Dieu regarde à notre cœur. Et ça, eh bien, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Suivre le Seigneur, c'est avoir un cœur, comme nous voyons ici, chez Boaz, chez Naomi, chez Ruth. Le presque 100% des gens regardent d'abord à leur intérêt. Si nous avons un réflexe humain, quel que soit ce que nous faisons, nous allons d'abord avoir un réflexe où on pense qu'on, inconsciemment, on va d'abord penser à soi, à nos intérêts. Puis, la plupart des gens, une fois qu'ils voient qu'il y a peut-être un intérêt, et c'est le cas de celui qui a ce droit de rachat, tout de suite, il dit, ça m'intéresse, je prends. Il est intéressé. Quand il voit qu'il y a un peu une autre facette dans toute l'histoire, il réfléchit à lui de nouveau. Ça y est, bien égal, deux veuves. Puis il dit, non, ça m'intéresse pas. Et ça, nos valeurs doivent aller au-delà de celles du monde, habitées par le Saint-Esprit qui nous aide à être comme Dieu le désire pour qu'on puisse lui plaire. J'ai fait une virée au creux du vent hier pour un peu m'entraîner, je fais un peu de sport. Puis sans le vouloir, j'ai été un poteau indicateur à plusieurs reprises. Vous savez qu'au creux du vent, il y a pas mal de monde. Alors j'ai d'abord été arrêté par quelqu'un qui m'avait descendre un chemin, puis qui m'a dit, mais est-ce qu'il y a un chemin? C'est quoi ce chemin? Il cherchait à comprendre, ça l'intéressait de savoir, parce qu'il aurait aimé le faire. Alors lui, il n'était pas perdu, mais voilà. Et puis deux autres, trois jeunes filles et puis un autre couple, étaient paumés, étaient perdus, ils ont dit, mais on cherche. J'ai dit, non, mais là vous n'êtes pas, si vous ne pouvez pas continuer là, faut aller là. Hop, j'étais un poteau indicateur. Et pour les trois filles après, je lui ai dit, ah ouais, non, mais les gorges laveuses, ouais, vous pouvez y arriver, mais c'est un peu compliqué, là. Et j'étais à nouveau un poteau indicateur. Puis ça m'encourageait, puis je me disais, mais comme chrétien, nous sommes des poteaux indicateurs. Les gens, à certains moments, devraient pouvoir nous questionner, puis nous dire, mais écoute, moi, je suis dans cette situation, je me sens paumé, qu'est-ce que t'en penses? Tu ferais quoi? T'irais où? Tu prendrais quelle décision? Et ça, c'est encourageant. Et Ruth, dans son pays, eh bien, en Moab, ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand elle a vu Naomi, malgré les deuils, malgré tout ce qu'elle a vécu, et c'est bouleversant, Ruth a dit, mais c'est pas possible, humainement parlant, c'est pas possible. Qu'est-ce que cette femme a que j'ai pas et que je vois pas en Moab? Elle a réalisé que c'était son Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et face à ce constat, eh bien, elle s'est convertie. Que nous puissions être des repères pour d'autres dans ce monde. En jurant fidélité à Naomi, bien Ruth a simultanément, bien sûr, juré fidélité à Dieu. Elle, cette étrangère. Alors, ma prière, bien sûr, c'est que l'Église, nous puissions vraiment être ses repères et que Dieu ne doive pas aller chercher je ne sais où, en dehors de l'Église, comme il a dû aller chercher en dehors du peuple d'Israël, pour récupérer en tout cas une personne dont il savait qu'il pourrait œuvrer sur la durée. Troisième point, eh bien, c'est la détermination de Dieu. Nous sommes devant un Dieu qui, tout à nouveau, me semble-t-il, nous surprend. Régulièrement, je me dis, mais Seigneur, tu me surprends, et j'aime bien. Mais des fois, il me reprend ou il me surprend dans des domaines où il me demande de faire quelque chose auquel je ne m'attendais pas. S'il le fait, c'est qu'il nous utilise, et il utilise même les circonstances dramatiques dans nos vies pour forger l'avenir de l'Église, pour forger l'avenir du royaume. Nous sommes en route vers le royaume des cieux. Et là, ben, il était en train de travailler à la venue du Messie, de son Fils sur la terre. Dieu avait déclaré, vous vous souvenez, en faisant alliance avec Abraham, qu'il serait une bénédiction, pas seulement pour le peuple qu'il engendrait, mais qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations. Que sa descendance serait extrêmement nombreuse. Et ici, dans ce livre magnifique, Dieu va utiliser Ruth, la Moabite, l'étrangère, pour donner une lignée dont la descendance va offrir la possibilité à toute l'humanité d'être sauvée. Et alors nous arrivons à Jean 3,16, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, et ce quiconque est extraordinaire, Dieu n'est pas sélectif, il va chercher quiconque est prêt à venir à lui. Et il travaille là au travers de ces personnes. Grâce à ce mariage d'amour, je crois que c'était un mariage d'amour, entre Boaz et Ruth, Obed viendra au monde, lui-même aura un fils, Isaïe, qui sera le père de David, roi d'Israël, référence majeure du Messie qui devait venir et naître à Bethléem, village où se passe l'histoire qui nous occupe 1300 ans avant la venue du Messie. Donc on voit que Dieu travaille sur la durée, y compris dans nos vies, et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Mais Dieu ne nous abandonne pas, Dieu travaille. Alors Dieu m'a rencontré, je n'ai pas toujours été chrétien, je me suis converti à 18 ans, j'ai senti son pardon. J'ai senti qu'il m'offrait vraiment sa vie, ça a été concret. J'ai reçu une paix extraordinaire, comme Ruth. Ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie. C'est ça qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. Jamais j'aurais imaginé que je serais pasteur. T'as 18 ans, jamais j'aurais imaginé que je serais même quelque chose, parce que c'était la catastrophe. Donc c'est génial. Dieu transforme des vies, j'en suis témoin. Et pour terminer, au verset 14, ça, je suis aussi encouragé parce que toutes les femmes de Bethléem se réjouissent. Malgré que la foi, c'est un peu limite, malgré que Dieu, on n'y regardait pas trop, eh bien, toutes ces femmes se réjouissent. Elles auraient pu critiquer, elles auraient pu juger, elles auraient pu jalouser aussi. Mais elles se réjouissent, puis elles se disent, mais c'est extraordinaire, ta belle-fille qui t'aime, elle souligne encore ça. Ta belle-fille qui t'aime t'a donné un petit-fils. Et l'amour est tel que Ruth acceptera même que Naomi élève son enfant. Ben ça, personnellement, je trouve vraiment très fort. Et ça montre combien Ruth, effectivement, était exceptionnelle. Pour conclure, eh bien, je crois que Dieu aimerait que quiconque, et pas seulement nous les chrétiens, rentre à la maison, à savoir qu'il y ait beaucoup de conversions. Et c'est pas facile. Moi, j'en vois pas beaucoup, je vous cache pas, des conversions. Et ça m'attriste, et je me pose beaucoup de questions à savoir, mais pourquoi? Et j'ai pas de réponse toute faite. Mais dans un livre comme Ruth, eh bien, je vois que Ruth est vraiment le modèle authentique d'une vraie conversion. Et ça me remet en question, je me dis, mais est-ce que nous sommes toutes et tous vraiment convertis? Est-ce qu'il y aura un travail à faire de fond, de reprendre conscience, de dire, mais est-ce que j'ai tout donné à Dieu? La conversion, conversion totale, un engagement sans réserve, sans regret, sans envie de retour. Un deuxième élément que je vois dans ce livre, c'est que Dieu, malgré l'évolution du mal, d'un peuple qui désobéit, eh bien, il accomplit ses plans de salut. Et même si nous, l'Église, c'est pas facile et on fait sans doute pas tout juste, Dieu continue d'accomplir ses plans et il ne va pas nous abandonner. Il n'a jamais abandonné Israël, et ça c'est encourageant. Ce livre nous montre aussi avec bonheur que Dieu trouve toujours des personnes sur lesquelles il peut compter. Et ça aussi je trouve que c'est génial. Il y a des personnes qui, malgré le monde, malgré les choses qu'on voit qui ne sont pas belles, pas bonnes, qui gardent un mode de vie selon les valeurs de Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, bien sûr. Sinon, nous ne pouvons pas être des repères pour le monde. Un autre point, nous chrétiens, que nous soyons pauvres, il n'y a pas que des riches dans les églises, que nous soyons malades parce qu'on n'est pas toujours en bonne santé, que nous soyons même découragés, nous pouvons demeurer être l'ami de Dieu, comme Ruth, Naomi sont restés des amis de Dieu et qu'il a pu les utiliser dans leur pauvreté, dans leur précarité. Quelles que soient nos circonstances de vie, notre passé aussi, maintenant que nous connaissons Jésus, comme Naomi, Ruth et Boaz, eh bien, marchons de tout cœur, avec et pour le Seigneur. Et ce livre nous y encourage. C'est une invitation également à la patience. Je suis patient, je le crois, vraiment. J'ai appris à l'être de par mon ancien métier. Il y a quand même des fois je trouve long. Il y a quand même des fois où j'aimerais des réponses à mes prières plus rapides. Et c'est une invitation à être patient. À dire, Seigneur, je vois toujours rien. Ça fait des années que je prie, ça fait des années que j'aimerais. Je vois rien, mais je te fais confiance. La patience, très beau. C'est une invitation à garder nos valeurs fortes. Et l'une des valeurs, et ça nous a été dit ce matin, merci, rappeler, c'est la joie. Essayer de rester dans une joie, qui n'est pas de l'ordre de la bonne blague et l'éclat de rire, alors ça aussi, hein, mais d'une joie intérieure profonde, quelles que soient nos circonstances, ça touche beaucoup. Et puis pour terminer, eh bien, dans ce livre, je crois que rester avec cette conscience du but, de l'objectif de Dieu, qu'est de permettre au plus grand nombre de personnes non-croyantes de rentrer à la maison, de revenir à la maison, de venir à Dieu. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous te demandons de vraiment nous aider à garder un cœur droit, de vivre dans ta vérité, de ne pas être parfait à l'extrême parce que nous ne le serons jamais, mais d'être vrai, d'être sensible, comme Boaz l'a été. Nous te prions aussi pour que tu nous accordes la patience dont nous avons besoin, comme Naomi a été extrêmement patiente, puis Ruth, une patience de fond, une patience de paix, une patience de confiance. Seigneur, que nous puissions demeurer tes amis, toujours proches de toi, reconnaissants, consacrés, comme Ruth l'a été. Que tu puisses nous donner en Église et à titre personnel d'être des personnes aimantes, comme ces femmes de Bethléem qui se sont réjouies pour ce qui était en train d'arriver. Elles n'ont pas critiqué, elles n'ont pas jugé, elles n'ont pas jalousé. Elles ont témoigné de l'amour. Et Seigneur, eh bien, nous savons que l'œuvre de Dieu, parce que Jésus nous l'a dit, c'est que nous puissions croire au Messie. Alors que nous puissions, Seigneur, être des repères dans ce monde, que des personnes, en nous observant, aient envie de dire, mais moi j'ai aussi envie de donner ma vie à ton Dieu. Seigneur, garde cette Église ici, que tu puisses les aider, les encourager, et je les bénis en ton nom. Amen.